L'Empire sans fin, première série, l'Empire romain. Avec Alberto Dallorosa et Ulrich Heugeven.
Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de l'Empire sans fin, une émission dans laquelle le radio s'intéresse à certains empires qui ont marqué l'histoire par leur durée et leur caractère multinational au fil d'une série de courtes émissions. Nous essaierons de dresser un portrait dans cette première saison de l'Empire romain qui a également duré des siècles et de comprendre pourquoi il a réussi à durer en nous intéressant dans cet épisode à la question de la citoyenneté. Alberto Dallorosa pour évoquer ce sujet. Je rappelle, vous êtes maître de conférence en histoire ancienne à l'université de Bordeaux. Pour évoquer ce sujet, est-ce qu'on peut d'abord dire un petit mot de sémantique? Est-ce qu'il y a une définition unique de la citoyenneté romaine? Comment est-ce qu'elle évolue à travers les siècles?
Oui, bonjour. Alors, le terme pour citoyenneté, si vous voulez, à Rome, en latin, c'est civitas. Alors, civitas, effectivement, c'est un terme qui peut identifier à la fois vraiment la cité, en tant qu'organisme politique, et le droit de cité, qui est celui du civis, non, le citoyen. Et donc ça, c'est très ancien, parce qu'effectivement, il faut s'imaginer que même dans l'époque archaïque, effectivement, à la naissance de Rome, 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Italie, mais aussi le monde ancien, est surtout dominé par deux types de forces politiques. D'un côté, on a des monarchies, et de l'autre côté, on a beaucoup de cités-États, non, qui, à leur intérieur, peuvent être aussi gouvernées par des magistrats ou par des rois, des tyrans. Mais voilà, la cité est effectivement l'une des cellules politiques les plus importantes. Et donc, chaque habitant de ces cités, chaque citoyen, effectivement, possède des statuts, des droits qui est d'abord fait valoir à l'intérieur de sa cité, de sa communauté civique. Surtout pour les régimes où, effectivement, il y a des assemblées populaires qui élisent des magistrats, qui c'est quand même aussi quelque chose d'assez commun et très répandu dans l'Italie, la Grèce et d'autres endroits aussi. Le citoyen est d'abord celui qui possède une série de droits qu'il va exercer à l'intérieur de sa communauté.
Sur la population sur l'ensemble de la population romaine, on sait exactement, on a une idée assez précise de combien est-ce que cela représente de pourcentage, par exemple le taux de citoyens. Est-ce que j'imagine que ça évolue aussi beaucoup selon les siècles,
hein? Ah oui, tout à fait. Alors, on peut pas du tout comparer l'époque archaïque, quand effectivement Rome était encore une petite cité et les Romains étaient surtout effectivement les habitants de Rome, de quelques effectivement villages ou d'autres communautés qui se trouvaient dans le Latium, et le moment où Rome est un empire effectivement répandu sur la Méditerranée entière, où il y a des citoyens romains un peu partout. Effectivement, avant d'introduire ce débat, il faut dire que par rapport au monde grec, les Romains ont toujours fait un usage de ces citoyennetés de manière diplomatique, dans le sens qu'ils ont su intégrer et donner la citoyenneté romaine à des personnes ou à des communautés, même qui étaient très éloignées de Rome. Donc, une concession de citoyenneté à des personnes qui, de manière pratique, n'avaient jamais la possibilité de se rendre à Rome pour voter, par exemple. Mais ils pouvaient, en tout cas, bénéficier d'une série de droits qui étaient liés à cette citoyenneté, qui étaient, par exemple, le droit de, effectivement, ce qu'on appelle le commercium, non, le fait de effectuer des transactions valides, et reconnues et protégées par les magistrats romains, aussi le fait de se marier correctement avec des citoyens romains et donc transmettre leur propriété, leurs droits aux enfants. Et donc, effectivement, il y a ce droit de cité qui est utilisé par beaucoup de non-romains de Rome, si vous voulez, et qui a fait un peu la force de cette citoyenneté, et c'est sa caractéristique un peu unique parmi les citoyennetés dès l'Antiquité.
Est-ce qu'on peut passer, qui décide, pardon, de l'attribution de citoyens?
Et alors, normalement, la règle, c'est que ce sont les citoyens qui décident qui va être citoyen. Dans le sens que quand on veut, par exemple, donner la citoyenneté à un groupe d'étrangers, étrangers qui dans le droit romain sont souvent sont représentés, sont définis les pérégrins. On a une proposition d'un magistrat souvent et il y a un vote populaire. Donc c'est effectivement du point de vue juridique, c'est le corps civique qui avec un acte, une loi, donne la citoyenneté aux étrangers. À l'époque impériale, effectivement, cette prérogative du peuple est donnée à l'empereur et donc l'exerce de manière autonome, sinon ses préférences, et donc utilise ce pouvoir aussi pour récompenser toute une série de personnes dans les provinces, partout, et permet aussi de conduire une véritable politique d'intégration qui est spécifique à certains empereurs. Par exemple, l'empereur Claude était très généreux avec les concessions de citoyenneté. Donc, on a beaucoup de personnes qui s'appellent Claudie dans les provinces. D'autres empereurs, comme Antonin le Pieux, étaient un peu plus réservés. Donc, c'est vrai qu'on a une régression, par exemple, dans le nombre de citoyens à l'époque d'Antonin le Pieux. Et après, on arrive, bien sûr, Caracalla, 212 après Jésus-Christ, son édit, où l'empereur donne la citoyenneté à tous les citoyens libres de l'Empire. Et ça, c'est effectivement l'un des moments les plus importants, effectivement, pour cette histoire de la citoyenneté romaine dans l'Antiquité.
Alors, Alberto Della Rosa, vous parlez de l'attribution de la citoyenneté pour tous les citoyens libres. Est-ce qu'il est possible, est-ce que ça a été vu dans l'histoire de passer du statut d'esclave, hein, il y avait quand même beaucoup d'esclaves dans l'Empire romain, au statut de citoyen, ou alors là, c'est pas du tout possible?
C'est absolument possible. Dans la tradition romaine, l'esclave libéré, donc l'affranchi, devient citoyen romain. Donc il prend la formule onomastique du maître, de l'ancien maître. C'est comme si c'était un peu son fils, effectivement. Il porte le nom de la famille de l'ancien maître. Et il a tous les droits des citoyens, sauf la possibilité de se faire élire en magistrature. Ça, effectivement, il faut tenir compte du fait que les Romains faisaient quand même une distinction entre les nés libres et ceux qui étaient nés esclaves et après affranchis, et on les considérait pas du tout au même niveau. Mais c'est vrai que du point de vue politique, les esclaves affranchis pouvaient effectivement voter, pouvaient rédiger leur testament de manière correcte, transmettre leurs propriétés, effectuer des transactions, et d'ailleurs les affranchis sont très très nombreux dans le commerce. On connaît beaucoup qui exercer des activités économiques en relation avec celles de l'ancien maître ou de manière indépendante. Donc, une effectivement différence par rapport au monde grec, là où les esclaves sont considérés des résidents dans la cité. Et donc, n'ont pas le droit, par exemple, de voter pour les magistrats. Et donc, il y a des cas où ils sont régularisés, mais donc sont des décisions ponctuelles. Ce n'est pas quelque chose d'automatique dans le monde romain.
Oui, ce sont vraiment les Romains qui vont amener le concept de la citoyenneté à leur version la plus aboutie dans l'Antiquité, si je vous entends bien.
Oui, certainement. Le fait de pouvoir utiliser le droit de cité au-delà des limites qui sont les limites traditionnelles d'une cité-État unique qui est Rome, effectivement, a permis de créer cet organisme politique et l'Empire romain qui est composé de plusieurs provinces, de territoires qui sont très éloignés, et d'avoir, en 212, un unique droit de cité. Même si, c'est vrai que les recherches récentes ont montré qu'il y a encore énormément de traditions anciennes et locales qui continuent d'exister. La citoyenneté romaine n'a pas effacé tout ce qu'il y avait avant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de particulièrement unique pour l'Antiquité, parce que ni l'Empire perse, ni les empires, l'Empire d'Alexandre, ou les autres royaumes hellénistiques ont promu ou créé une sorte de citoyenneté pour ces organismes qui étaient un peu souverains, souverains nationaux, un peu comme, effectivement, l'était aussi l'Empire romain.
Alors, Alberto Della Rosa, est-ce qu'il y a des registres des citoyens, des documents, j'imagine qu'il n'y a pas de passeport à l'époque, mais des documents qui attestent pour le Romain qui est citoyen, justement, de cette appartenance, de cette citoyenneté?
Alors, il n'y avait pas de registre comme aujourd'hui. C'est vrai que ce n'était pas toujours simple de prouver d'être citoyen. Il y avait des abus. Normalement, l'onomastique, donc le nom qu'on portait, montrait l'appartenance à la citoyenneté romaine ou pas. Donc le fait d'utiliser les trois noms, donc le prénom, le nom gentilis et le cognomen, le surnom comme Marcus Tullius Cicero, Cicéron par exemple. Mais c'est vrai que pour certaines catégories, on avait des documents. Par exemple, on a des soldats qui étaient non citoyens au début, mais qui avaient milité dans les unités auxiliaires pendant 25 ans, qui, à la fin du service, recevaient effectivement une attestation du fait qu'ils avaient bien terminé leur service militaire et qu'ils avaient obtenu la citoyenneté romaine. Et donc, ils obtenaient une sorte de petite attestation qui était en métal, effectivement, et qu'ils portaient toujours avec eux pour prouver de la leur citoyenneté. Il y avait aussi une catégorie particulière d'affranchis, par exemple, qui n'avait pas le droit de citoyenneté pleine parce qu'effectivement, elle avait été affranchi trop jeune ou dans des circonstances considérées moins correctes. Et effectivement, eux, ils avaient besoin de faire régulariser leur position, donc d'avoir une naturalisation complète quand ils avaient un enfant de 1 an. Donc, ils avaient un dossier à préparer, donc le présenter au magistrat romain et donc ils recevaient une attestation du fait qu'ils étaient des pleins citoyens. Et donc, voilà, pour ça, il y avait des documents, il y avait des registres. Mais bien sûr, voilà, si vous voulez, Cicéron n'avait pas de carte d'identité. Tout le monde savait qu'il était romain. Il pouvait citer son père, ses ancêtres, qui étaient citoyens romains. Et ça était normalement suffisant.
Eh bien, je vous remercie très chaleureusement, monsieur Alberto Dalla Rosa, de ce focus sur la citoyenneté romaine dans le cadre de la série L'Empire sans fin sur E-Radio. Je rappelle, Alberto Dalla Rosa, que vous êtes maître de conférences en histoire ancienne à l'Université de Bordeaux. Je vous remercie et puis on vous retrouve pour un prochain épisode très prochainement.
Merci, au revoir.
C'était L'Empire sans fin avec Alberto Dalla Rosa et Ulrich Heugevelt.